Sandrine Bonner, bonjour.
Bonjour.
Alors, Venise, vous connaissez quand même, on vous a quand même aussi offert des petits prix ici, non ?
Ouais, carrément, des grands prix.
Qu'est-ce que ça présente comme festival ? Enfin, et le fait de venir ici présenter un film ?
Alors, déjà, c'est vrai que j'aime bien ce festival de Venise parce que, d'abord, je trouve qu'il y a souvent une belle programmation. C'est un festival qui est pas encrassé de plein de choses, je trouve. Et puis c'est vrai que j'en garde un bon souvenir pour Saint-Ouen-y-Loin, où on est revenu avec le Lion d'Or, la cérémonie de Chabrol, on est revenu avec le prix d'interprétation. Je pense que je suis revenue avec d'autres films, mais je me souviens plus quoi, par contre. Et je me souviens aussi que j'ai fait partie du jury en, je crois que c'était 2007 ou 2008, sous la présidence de Ang Lee. Et voilà. Et surtout, ce qui me... Là, puisque je suis là pour ça, c'est... je suis encore plus touchée d'être là aujourd'hui, dans le sens où c'est un film que je présente qui s'appelle Lanka, de Sarah Marx. Et c'est un film qui s'est vraiment fait avec des bouts de ficelle, un tout petit film qui a été extrêmement dur à se monter.
C'est le premier film de Sarah. Ouais. Vous aviez déjà vu, je suppose, son court-métrage Fatoum, donc 2012, qui parle finalement un petit peu qui est une prolongation finalement ce film par rapport à son court.
Alors je n'ai pas vu son court, en fait je n'ai rien vu de ce qu'elle a fait, mais j'ai presque envie de dire que c'était pas nécessaire en tout cas pour accepter.
C'est l'histoire de trois amis dont un qui va faire de la prison. Et puis qui vont se retrouver. Donc, c'est un peu Ulysse, peut-être un de ces personnages qui est dans la prolongation.
Ouais, sûrement. Hein. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est dans la prolongation d'un documentaire qu'elle a fait, parce qu'elle a passé plus d'un an, je crois, dans la prison de Nanterre, si mon souvenir est bon, où elle animait des ateliers théâtrales. Et le fait d'avoir travaillé avec des prisonniers. Lui a donné envie de faire ce film. C'est, en fait, c'est une continuité de ce documentaire.
Qu'est-ce qu'elle a comme argument pour vous convaincre de dire, tiens, premier film, c'est pas toujours évident quand même. Vous recevez des paquets de scénarii. Et pourquoi celui-là ?
Parfois, c'est bien de faire des premiers films parce qu'on sent justement toute l'énergie, toute la fraîcheur d'un metteur en scène et toute l'innocence aussi. Et donc parfois ça vous en redonne à vous-même. Donc ça, c'est une des raisons, mais c'est aussi moi je fonctionne surtout par rapport au sujet, et ce film-là donc pour moi c'est une participation. Mais ce qui m'a plu dans ce film, c'est que ça parle de kétamine, et c'est un jeune garçon qui sort de prison et qui va vendre de la kétamine dans des rêves parties pour soigner sa mère, parce que en gros sa mère est dépressive et elle est sous tutelle et elle a besoin d'être soignée. Et pour la soigner, il faudrait 2 500 € par mois pour qu'elle puisse avoir une auxiliaire de vie. Et évidemment, il n'a pas cet argent-là, parce que sortant de prison, il y a plein de métiers qu'il ne peut pas faire, parce qu'il est fiché. Et aussi parce que trouver un métier qui paye plus de 2 500 €, en tout cas pour lui, ce n'est pas possible. Donc il va se mettre à vendre de la kétamine dans des rêves parties, qui est une drogue, qui est servi dans de l'alcool et la kétamine et quelque chose qu'on donne aux animaux. C'est une drogue, en fait c'est censé être un tranquillisant pour les animaux, ça endort un cheval par exemple. Sauf que parallèlement, donc cette maman, qui est moi, est dépressive, et il y a des nouvelles choses qui se font aujourd'hui qui ne sont pas encore totalement... puisque c'est encore des tests qui se font sur des patients, mais il y a des traitements à base d'injections de kétamine qui soignent les dépressions. Et il paraît que c'est très convaincant, et moi personnellement, j'attends de voir. Mais en tout cas, le parallèle est quand même incroyable entre ce garçon qui est dans l'illégalité, qui utilise la kétamine, et puis cette femme qui se fait injecter de la kétamine où là, pour le coup, c'est légal.
Est-ce que tous les moyens sont bons pour arriver à son but, selon vous ?
Ben, j'ai l'impression. Hein. Ouais. J'ai l'impression, je trouve qu'on est dans une société qui va mal. Et pour moi, c'est le sujet du film. C'est la kétamine fait censée rêver les jeunes. Et puis soigne les dépressions. Mmh. Et c'est quand même... voilà, c'est de la chimie. C'est terrible. C'est terrible parce que on rentre dans un monde où ça va pas bien et la chimie prend de plus en plus de pouvoir sur tout, quoi. Donc la chimie égale laboratoire, égale argent, égale plein de choses.
Vous êtes mère, bon, Jeanne, et puis qui a 24 ans maintenant, et Adèle, 13, hein.
Oui.
Ça vous parle encore plus, non, cette relation enfant-mère par rapport à un sujet comme celui-là, disant, mais qu'est-ce qu'ils peuvent devenir, ou mal tourner, ou bien tourner?
Ouais, je ne sais pas très bien ce qu'on offre aux jeunes aujourd'hui. Mmh. Nous, on pousse nos enfants à avoir le bac, à bien travailler à l'école, et une fois qu'on a le bac, ben, on n'a pas forcément de travail. Ça, c'est pareil, ça ne va pas bien. Et les enfants ne sont pas dupes, hein, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est dans un système difficile, quoi, dur. Et en même temps, en France, il y a quand même beaucoup d'aides sociales, donc on n'est pas les plus mal lotis, mais en même temps, ça ne va pas bien. Et on est dans un monde... pour rêver, on est obligé d'être dans des artifices. Il n'y a plus grand-chose qui nous amène à rêver. C'est compliqué. Mais je crois beaucoup à la génération d'aujourd'hui qui se conscientise, qui se bat, qui se rébelle et qui s'exprime surtout.
Donc le no future pour vous, c'est fini ou...
Non, parce que je suis une optimiste.
Malgré vos rôles noirs, sombres, un tempérament optimiste. Là.
Ah mais complètement, je suis le contraire de mes rôles. Hein. Uh-huh. Heureusement, parce que sinon... je serais sous kétamine pour le coup, pour la dépression. Ah oui, je suis une éternelle optimiste et puis je pense qu'il faut l'être jusqu'au bout. C'est ça qui fait qu'on se bat et qu'on continue à exister, à vivre et à tenter de créer ou d'avoir envie de créer de belles choses parce que c'est y a que ça qui nous tient.
Des sujets forts comme celui-là, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une mission en disant je veux quand même montrer certaines choses ou apporter par votre témoignage, puisque vous n'avez pas vécu ça, mais en disant moi je peux vous montrer ce à quoi ça peut aboutir ou les dangers ou le potentiel de certains médicaments comme celui-là. Donc vous seriez mandaté d'une bonne parole à transmettre ou,
C'est ça qui est chouette avec le cinéma ou la musique ou même la littérature, c'est que c'est qu'on peut de temps en temps éveiller les consciences, ou en tout cas pas nous directement forcément, mais en tout cas un sujet permet ça et on nous sollicite pour un sujet qui permet de l'ouvrir de le mettre en lumière pour au moins qu'on soit informé des choses. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce métier, c'est de pouvoir... d'abord, moi, personnellement, j'apprends des choses, parce que la kétamine, je vous avoue que je ne savais pas ce que c'était. À travers ce film, je me suis renseignée, et j'en sais un peu plus, et ça me... Ben, je suis un peu le pigeon voyageur, quoi. Nous sommes les pigeons voyageurs, les acteurs.
Et votre fils est joué par Sandor Fentech. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec un autre univers?
il est très attachant, il est encore très pur, très innocent, et du coup très viscéral. C'est un gamin qui ne triche pas, qui est en questionnement permanent, ce qui est chouette, parce que parfois on peut trouver des acteurs qui sont censés déjà avoir tout compris, enfin c'est ce qu'ils pensent en tout cas, et c'est pas son cas. Et il est, ce qui est touché en lui, c'est qu'il est en quête, il enquête d'apprendre et de recevoir. Donc ça s'est passé très naturellement entre nous, c'était Bah, simple, quoi. Simple. Comme une mère avec son fils. Enfin, non, parce que parfois, ça peut être très compliqué, une mère avec son enfant. Mais ça peut être aussi très simple. Donc, non, c'est un bel acteur. Il me touche.
Alors, en parlant de comédien, mais il y en a une, vous connaissez bien, c'est Isabelle de Hertog. Et vous allez nous parler de ce fameux projet dont Isabelle nous parle déjà, quoi, après 2 ans, je crois, non
que... Ah, ça fait plus que ça, ça fait 3 ans qu'on est sur le projet. 3 ans parce que j'écris le scénario avec Isabelle Willems. Je dis Willems parce que moi je l'appelle Willems, mais il paraît qu'on dit Willems. Donc scénariste belge, et qu'on a chacune des obligations, donc ça fait un peu traîner l'écriture. Et aussi parce que je pense que l'écriture, quelque chose qui... c'est quand même, en tout cas pour moi, en tant que réalisatrice, la colonne vertébrale de tout. Même si on peut changer des choses après, il faut savoir ce qu'on raconte. Et le projet donc avec Isabelle de Hertog était une très belle histoire, parce qu'on... Avec Isabelle, on s'est rencontrés sur un film de Claude Lelouch. Elle m'avait parlé d'un début d'écriture qu'elle avait avec cette Isabelle Willems, le destin de 3 femmes. Et moi, de mon côté, j'écrivais, j'avais commencé aussi un projet de l'histoire de 3 femmes. Et en fait, on s'est aperçu que c'était le même sujet. Et donc, on a ramené les 2 histoires. Et on va dire que l'Isabelle d'histoire de Hertog est la première partie de l'histoire, et la mienne est la seconde. Donc ça fait une histoire, une seule histoire, et qui est sur le même sujet, c'est donc sur l'identité. Qui on est, comment peut-on vivre quand on ne connaît pas son identité. Voilà, ça commence sur un déni de grossesse qui va amener sur une naissance sous X. Et en quête de savoir d'où on vient. Donc voilà, c'est un très joli projet. On s'y attelle depuis longtemps, et on prend notre temps, et ça c'est bien. Et voilà, là maintenant on est en fin d'écriture. Nous avons notre producteur.
Ça va ou...
Oui, on a notre producteur français, Dominique Besnéard, qui est partant dans l'aventure. Et puis nous allons solliciter la Belgique, mais pour des raisons bien précises, parce que souvent la France sollicite la Belgique pour
les taxes et le tort,
voilà. Et moi c'est pas du tout pour ces raisons là c'est tout simplement parce que l'histoire se passe en Belgique, et elle se passe en Belgique parce que cette loi de naissance sous X n'existe pas en Belgique. Et c'est tout le cœur du film, en fait.
Dominique Besnéard, pour lequel vous aviez encore travaillé dans 10%.
Non, j'ai pas fait
10%. On n'était pas dans son projet.
Non, j'ai commencé avec lui, j'ai fait mes premiers pas avec lui en tant qu'actrice dans À nos amours, puisqu'il jouait mon frère. Et j'ai aussi fait mes premiers pas, puisque c'est lui qui a produit mon premier film de fiction. Donc j'ai 2 fois fait mes premiers pas avec Dominique, et je tiens beaucoup à ce qu'on
une sensibilité aussi
continue notre danse.
Je crois très bien au sujet que vous abordez là ici. Hein. C'est un homme qui s'implique et qui aime des sujets forts. Quand même.
Ah oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, qui est audacieux, qui prend des risques et qui est fidèle aussi. Quand il aime les gens, il les suit. Il n'y a pas.
Vous avez été votre agent ?
Non, jamais.
Non,
il a été mon frère, mon frère et mon producteur. Et c'est un frère, c'est vraiment un frère de cœur, ça c'est clair.
Tiens, vous parliez de Lelouch, bon, vous avez rencontré Johnny. Qu'est-ce que ça vous a amené comme réflexion, sa disparition ?
Ben, elle a été triste, forcément. Elle a été... Johnny, c'est notre Johnny. C'est comme un Johnny, la force de Johnny, c'est qu'il était dans chaque foyer. Il était le frère ou le père ou l'ami ou l'amant de chacun des Français. Donc ça fait un sacré vide. Mais pour moi, le sacré vide, c'est Jacques Higelin.
Vous avez connu aussi, avec qui vous avez
travaillé. Que j'ai bien connu, et je dis ça simplement parce que j'ai eu plus d'histoire avec Jacques Higelin qu'avec Johnny. Johnny, je l'ai... on a partagé un film, et puis on est resté en contact et tout ça, bien sûr, après, on s'aimait beaucoup. Mais Jacques Higelin fait partie de mon histoire artistique aussi,
et,
musicale et personnelle. Mmh. Donc j'ai mieux connu Jacques Higelin, et c'est vrai que Jacques Higelin, c'est... j'ai mis, je ne me remets toujours pas de, sa disparition, de, enfin du vide, c'est pas de la disparition, parce que je pense que c'était bien quand les gens sont, voilà, je pense qu'il y a un moment donné, on part tous, et il y a des moments où il faut plutôt partir, plutôt que de rester en n'étant plus là. Mais c'est pour moi, Jacques Higelin, c'est un vide personnel et un vide artistique énorme. Et puis en même temps, c'est un plein de... parce qu'il a laissé de sacrées belles chansons, une écriture merveilleuse. C'est un enchantement.
La musique, ça vous donnera encore des envies ?
Oui, je parle de Jacques Higelin parce que aussi j'ai fait un documentaire sur lui. On a chanté ensemble, on a fait une chanson ensemble. Et ensuite, j'ai réalisé un film sur Marianne Faithfull. Donc, j'ai continué à filmer, à encore avoir un pas dans la musique. J'ai encore aujourd'hui un pas dans la musique avec Eric Truffaz, qui est un très grand trompettiste et compositeur de jazz. On est en tournée d'un spectacle de lecture de Marguerite Duras en musique, et avec Marcello Giuliani, qui est un très grand bassiste, guitariste et contrebassiste. Donc voilà, je suis toujours en jolie note avec...
avec la vie.
Avec la vie.
Merci en tout cas, Sandrine. Et donc, on rappelle l'Ancaz. Il n'y a pas encore de date, en tout cas, pour la Belgique.
Non, je crois qu'ils n'ont pas encore la date française. Ils ont un distributeur, mais la date n'est pas fixée encore.
Voilà, de Sarah Marx. Merci en tout cas.
Merci.